Religion du monde. Geneviève Delrue.
On est dans un pays chrétien, Dieu avant tout. Cette histoire d'État laïque, c'est non. L'État est chrétien et les minorités qui sont contre doivent s'incliner devant la majorité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ouvre avec Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, donné favori à ce second tour des élections présidentielles ce dimanche au Brésil, face à Fernando Haddad du Parti des travailleurs de l'ex-président Lula. Jair Bolsonaro, qui devrait bénéficier du vote évangélique, 70% des protestants évangéliques, d'après les sondages, auraient l'intention de voter pour lui. Pour nous éclairer sur ce vote, avec nous en studio, Elcio Ramalho, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes du service Brésil de RFI. Alors déjà, un petit commentaire sur le son, hein, sur l'extrait que l'on vient d'entendre. C'était, il faut le préciser, en 2017.
En 2017, il était encore pré-candidat à l'élection présidentielle par un autre parti, non sur celui qui se présente actuellement. Donc il parle devant une petite foule à l'intérieur du nord-est du Brésil. Le nord-est, on va dire, c'est le fief électoral du Parti des travailleurs. Donc là, il annonce en fait. Hein, il annonce déjà qu'il veut se prendre à cette idée d'un État laïque. Pour lui, c'est un État avec des racines chrétiennes et pour cela, il veut finir avec cet État laïque, ce qui est très inquiétant pour beaucoup de religions, beaucoup de politologues, beaucoup de pour la société en général.
Voilà, donc c'est en 2017, effectivement, il annonce la couleur. Alors déjà, les évangéliques, on est bien une carte, hein, j'allais dire religieuse du Brésil. Les évangéliques en 2010 étaient 22% de la population, tandis que les catholiques représentaient à peu près 65%. Mais bon, ça date de 2010, en 8 ans, ça a beaucoup bougé.
Exactement. Et c'est le recensement officiel, donc ça se fait tous les 10 ans. Il y a 2 ans, 2016, un institut de sondage très fiable au Brésil, Datafolha, estimait déjà à presque 50% les évangéliques au Brésil. Et quand on parle des évangéliques, on parle de beaucoup de, on va dire, d'alternatifs, hein, néo-pentecostistes. Donc, il y a plusieurs courants, en fait, au sein de ce qu'on considère évangélique au Brésil. Mais ils sont quand même dans une augmentation, ça c'est sûr. Même les sondages les démontrent, les sondages récents. Et on voit surtout qui ces courants évangéliques, ils trouvent leur place surtout dans les périphéries urbaines au Brésil, là où l'Église catholique n'est pas présente et du coup donc il y a beaucoup de pasteurs de différentes religions évangéliques qui s'installent et qui créent un lien social et spirituel avec des habitants des quartiers défavorisés. Donc c'est là qui ces courants poussent à grande vitesse.
On va dire. Avec des femmes notamment qui ont une vie dure, qui doivent faire de beaucoup de transports.
Qui ont peur que les enfants puissent être réparés, tomber dans la drogue, dans les trafics. Donc, c'est là aussi une population cible pour ces discours évangéliques très ancrés sur la morale, la famille, la protection de la famille. Donc, c'est là qu'ils trouvent vraiment un écho à leurs propos. En fait.
Bolsonaro est catholique.
Il est catholique
à l'origine.
Oui. Mais en 2016, il est allé en Israël pour se faire baptiser par un pasteur évangélique. Et sa femme, elle est évangélique de la religion baptiste. Et il y a 5 enfants, dont 4 hommes, dont 2 sont aussi évangéliques. Donc, il est entouré.
Il est dans le milieu.
Oui. Il est dans le milieu, absolument. Et après, il y a eu un appui, un soutien très affirmé de l'archevêque Edir Macedo, de l'Église du Royaume de Dieu. Et là, c'est un homme très puissant au Brésil parce que il contrôle les médias. Il y a le deuxième groupe de médias au Brésil qui a appuyé, a soutenu en fait la candidature de Jair Bolsonaro. C'est là qui a fait en sorte que cet électorat religieux a beaucoup suivi en fait les consignes de cet homme religieux. Et c'est pour cela que Jair Bolsonaro aujourd'hui a cet score de 71% des évangéliques qui sont prêts à voter pour lui.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a des groupes évangéliques qui ont un fort pouvoir à la fois financier dans la musique, ils ont des médias, ils ont des radios, ils ont des télévisions, donc fort pouvoir financier et du coup fort pouvoir politique. C'est ce que décrit très bien Lamia Walalou dans son livre Enquête Jésus t'aime aux éditions du Cerf sur la déferlante, c'était son expression, sur la déferlante évangélique. On l'écoute.
C'est un pouvoir politique qui maintenant se concrétise de façon très claire. Donc vous avez 87 députés évangéliques. Il y a 30 ans, il y en avait 2. Ils voudraient doubler cette présence cette année, en 2018, lors des élections. Et 87 députés, ça veut dire que, évidemment, c'est pas majoritaire, c'est à peu près 20% des députés. Mais en revanche, vous prenez en otage, en fait, le Parlement, de plusieurs façons. Vous n'acceptez pas de voter avec d'autres si les gens ne votent pas pour vous. Ou alors, vous dites au gouvernement, aucun de mes députés ne sera là le jour d'un vote. Et dans ces cas-là, à cause de la politique de la chaise vide, on est obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Donc, ils ont vraiment pris en otage la vie politique brésilienne de ce point de vue-là. Mais c'est un pouvoir gigantesque, en fait. Et puis, parmi les pasteurs, on a les hommes les plus riches du Brésil. Donc ces fonds-là, on ne sait pas s'ils vont directement à Jésus, mais en tout cas, on sait à qui ils profitent.
Marcelo Crivella, le maire de Rio, est un évangélique. Il était sénateur. Quand il a demandé, c'était à Lula, que la marche pour Jésus soit institutionnalisée.
Oui, ce qu'il a réussi à faire.
Il a réussi à faire, c'est ça.
Là, vous n'avez aucune grande ville au Brésil où il n'y a pas une marche pour Jésus. Et je vous recommande, si vous êtes en mai ou en juin, d'y aller. C'est très impressionnant. São Paulo, c'est 3 millions de personnes.
Alors, Elcio Ramalho, vous confirmez?
Oui, tout à fait, exactement. Oui, Lamia a tout à fait raison. D'ailleurs, elle a évoqué de nombreux députés de l'ancien congrès, en fait. Le congrès a été renouvelé dans les élections du 7 octobre, premier tour. Donc aujourd'hui, les députés qui se sont déclarés évangéliques, ils ont augmenté. Ils sont aujourd'hui au moins 90 députés et au moins 4 sénateurs. Donc on voit qu'il s'est vraiment constitué, c'est qu'on appelle bancada évangélique. Donc c'est un groupe des parlementaires, justement, qui met en évidence leurs croyances et c'est par rapport à la religion qu'ils décident d'un vote, d'une telle, des propositions d'une telle ou d'une autre loi. Donc, on va voir aussi, au cas où Jair Bolsonaro soit élu, donc une importance de ces groupes qui va vraiment avoir un pouvoir sur le Parlement très, très important.
Je vous remercie, Elcio Ramalho. La journée s'annonce dure pour vous parce qu'à l'heure où nous diffusons le Brésil dort, enfin une partie, la journée s'annonce dure pour vous, là.
Exactement.
Longue, longue.
Et longue, longue, longue.
Premier résultat vers quelle heure en heure française?
En fait, l'heure française, ça doit tomber vers 17h, heure française, parce qu'en fait, les votes au Brésil, ce sont des urnes électroniques. Donc, les résultats tombent très, très vite.
On vous écoutera. Merci, Elcio Ramalho. Prend fin ce dimanche le synode sur les jeunes, un mois d'échange, 14 groupes linguistiques, des évêques et des experts du monde entier, des jeunes du monde entier avec les différences culturelles que cela suppose et des jeunes donc qui avaient été désignés pour représenter leur église, l'église de leur pays. C'était une première donc pour tous, ils ont pu prendre la parole 4 minutes en général pour exposer leur attente. Éric Sénang, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Alors le pape avait demandé, on s'en souvient au début, une écoute et une parole libre. Alors est-ce que cette écoute et cette parole libre ont eu lieu?
Oui, de manière générale, Geneviève, on peut répondre oui à cette question. C'est ce qui remonte en tout cas de la plupart des témoignages, des évêques, des cardinaux, des pères synodaux, comme on les appelle, et de ces jeunes. Il y a vraiment eu ce travail d'échange et de circulation de la parole, que ce soit dans la grande salle du synode où ils étaient tous rassemblés, ou dans les groupes linguistiques, avec une ambiance, on va dire, un peu nouvelle pour un synode, même une certaine fraîcheur avec la présence de ces jeunes. On les a entendus applaudir, parfois crier, manifester leur enthousiasme aux différentes propositions et différents exposés de tous les pères synodaux. Alors beaucoup évidemment de ces membres, de ces participants étaient curieux de travailler ensemble. Imaginons des évêques de Polynésie, d'Irak, des États-Unis, du Cameroun qui ne se sont jamais rencontrés, qui se retrouvent à Rome. C'est pour eux une expérience assez unique de partager justement leur témoignage. Il y a eu aussi des moments d'émotion, Geneviève, lors de ce synode, notamment le témoignage de ce jeune Irakien qui a parlé de la persécution des chrétiens de son pays et de toute la région, de tout le Moyen-Orient. Et la présence aussi, il faut le rappeler, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, de deux évêques de Chine continentale. Ça, c'était un fruit direct du récent accord entre le Saint-Siège et la Chine.
Oui, effectivement, c'est tout à fait à souligner. Alors, c'était quand même impressionnant pour ces jeunes hein, de prendre la parole. Et du reste, c'est ce que vous a dit Henriette. Hein. Henriette, qui est une Africaine, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Henriette Camara a 27 ans, elle vient de Guinée-Conakry, elle était l'une des voix de l'Afrique, des jeunes Africains à ce synode, et elle représente les scouts de son pays, on l'écoute.
Ce n'est pas facile d'être là devant des milliers de cardinaux et d'évêques, c'est pas facile de prendre surtout la parole devant eux pour parler et de témoigner de ce qu'on entend ou de ce qu'on veut que ça soit véhiculé. Mais là, que ce soit les responsables, d'autres personnes même que je ne connais pas, ils m'ont écouté et ils ont tenu à m'écrire un petit mot, surtout un mot d'encouragement, car ce n'est pas facile.
Alors, Eric, quels sont les grands thèmes qui sont revenus ? Il semblerait qu'on ait beaucoup parlé d'accompagnement, des jeunes, de la famille, d'une église inclusive, du numérique, de la place des femmes. Quels sont les grands thèmes qui ont émergé de ce synode ?
Absolument. Il y en a beaucoup, vous l'avez dit. La notion d'accompagnement, ça c'était un des mots-clés de ce synode. Comment accompagner des jeunes, parfois démunis, qui se sentent seuls dans leur foi, avec évidemment des contextes géographiques et culturels extrêmement différents. Comment ces évêques, ces prêtres, tous ceux qui sont chargés finalement d'accompagner ces jeunes, peuvent être plus crédibles aussi parfois pour tous ces jeunes-là. Et les thèmes ont été extrêmement précis. On a parlé donc beaucoup de numérique. Hein. Ces jeunes sont connectés, ils sont sur Facebook, Instagram, YouTube parfois pour certains, ce qui d'ailleurs était un peu rigolo parce qu'un petit peu en décalage avec une certaine génération d'évêques pour ne pas parler de certains cardinaux. La question aussi de la crise écologique a été souvent remontée lors des travaux, les migrations bien entendu, d'ailleurs une question liée justement aussi parfois à la crise écologique, et puis des questions très contemporaines qui concernent évidemment toute l'Église, peut-être qui résonnent aussi beaucoup plus fort dans nos sociétés occidentales, la place de la femme, comment les femmes peuvent trouver une place et une voix, on va dire, plus audible dans l'Église d'aujourd'hui, avec cette limite aussi, c'est-à-dire qu'au synode, Geneviève, les femmes qui étaient invitées n'ont pas pu voter pour le texte final, donc évidemment les débats se poursuivent et les questions sont toujours ouvertes. On a également parlé pendant ce synode de la question de l'accueil des homosexuels, les personnes LGBT. Alors évidemment, certains évêques, pour eux, c'était une question, on va dire, plus exotique, plus décalée. Mais cette question a été aussi mise sur la table parce qu'elle regarde des interrogations directes et en particulier de tous ces jeunes.
Alors en conclusion, Eric, que peut-on dire sur ce synode ? On a parlé de prudence des rapports des groupes de travail et parce qu'effectivement, il y avait en mémoire hein, le synode sur la famille qui avait été quand même assez polémique, hein, on s'en souvient.
Oui, absolument. Ce synode sur la famille, vous le souvenez, qui avait suscité beaucoup de tensions. Il y a même des textes qui avaient été amendés au cours de ce synode, qui avaient provoqué, on va dire, presque des batailles entre cardinaux. Rien de ces tensions cette année avec ce synode sur les jeunes. Mais il va falloir voir ce document final. Est-ce que les pères synodaux vont parler suffisamment aux jeunes, ça c'est quand même une question qui reste posée. Lors des travaux cette semaine, un évêque ne cachait pas que cette assemblée manquait parfois de créativité. Hein. C'est vrai que c'est lourd, c'est presque un mois, c'est beaucoup de discussions, c'est toute une grosse mécanique. Attention à ce que ça ne devienne pas un peu le catalogue IKEA. Et ça, il va falloir être vigilant. Est-ce que justement l'Église va pouvoir apporter cette parole qui rejoint tous les jeunes, à commencer par les jeunes catholiques, mais aussi tous les jeunes du monde entier. La question reste ouverte, Geneviève.
Je vous remercie Eric Senanque. Je rappelle que vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Merci.
Merci Geneviève.
À Lourdes, à partir de samedi prochain jusqu'au 8 novembre, les évêques se retrouvent pour leur traditionnelle assemblée plénière d'automne. Une assemblée marquée par la crise des abus sexuels au sein de l'Église qui a rebondi à la mi-août aux États-Unis Et en France, en un mois, deux jeunes prêtres ont mis fin à leur jour. Si les causes précises ne sont pas connues, ces deux suicides sont à inscrire dans le climat lourd et anxiogène pour le clergé. Une première à Lourdes, la présence de 8 personnes victimes d'actes pédocriminels par des clercs. Ces 8 témoins, dont une partie gardera l'anonymat, ont été invités par la cellule permanente de lutte contre la pédophilie de la Conférence des évêques de France. On écoute Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Vous savez, plus nous avançons, plus nous découvrons au fur et à mesure les questions qui se posent. Et les évêques ont entendu des victimes, pour beaucoup d'entre eux, dans leur propre diocèse. Il nous semblait important qu'au niveau de la conférence en elle-même, il puisse y avoir cette rencontre entre les évêques et des victimes. Ce qui est majoritairement revenu des victimes, c'est la question de la dimension spirituelle. C'est-à-dire que l'abus commis par un prêtre, c'est un abus physique, c'est vrai, mais c'est aussi un abus spirituel. Et donc il y a la question de la reconstruction spirituelle des personnes qui est en cause. Il y a la question de mesurer un petit peu l'étendue de cette dimension des crimes, de la pédocriminalité dans notre pays. Il y a la question de la prévention. Il y a la question aussi de faire en sorte que tous les agents pastoraux soient concernés et pas uniquement les prêtres. Donc voilà, diverses questions que les victimes ont posées et qui seront discutées avec les évêques.
Vous soulignez en quelque sorte la progression, votre progression à tous dans cette affaire de pédophilie. Et là, est-ce qu'on peut considérer que cette assemblée plénière est un tournant ?
Cette assemblée, elle intervient dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que depuis le 15 août, depuis qu'ont éclaté les affaires en Pennsylvanie, on voit bien comment le monde entier, d'une certaine manière, et l'Église universelle, est marquée d'une manière toute particulière par cela. Et les évêques français sont marqués par ce qui se vit dans le pays, mais entendent aussi ce qui se vit ailleurs. Cette assemblée, elle est dans la continuité de ce qui s'est fait depuis avril 2016, et en même temps, nous sentons bien qu'il y a une prise de conscience très forte qui s'est faite, que rien ne pourra être plus comme avant. Rien ne pourra être plus comme avant. Et que du coup, c'est ce qui a pu être cette culture du silence, ce qui a pu être ce fait de ne pas prendre en compte les victimes, ce qui a pu être le fait de protéger les auteurs, ça, ce n'est plus possible. Et c'est quelque chose qui est, c'est un effet clapet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, nous sommes projetés vers l'avant. Projetés vers l'avant pour voir, parce que nous découvrons la vérité au fur et à mesure où le temps s'écoule, nous sommes projetés pour l'avant pour dire, ben voilà, aujourd'hui, nous découvrons cela, nous apprenons cela des victimes, nous voulons travailler avec elles pour la prévention, pour voir ce qui est nécessaire pour leur restauration complète, pour faire la vérité et la lumière. Et donc, quels sont les pas auxquels nous sommes appelés? Et c'est ça que nous allons travailler au cours de cette assemblée-là, mais des autres assemblées aussi. Ne nous leurrons pas. Tout ne sera pas réglé le 8 novembre 2018. Nous en avons pour des années pour régler ça. Mais nous voulons avancer pas à pas avec les victimes.
La perspective d'une commission d'enquête se dessine très, très nettement, non ?
Déjà le 3 octobre dernier, le président de la conférence, Mgr Pontier, a dit dans une interview dans un grand quotidien qu'il envisageait très fortement cette possibilité qu'il y ait une commission indépendante qui serait indépendante de l'Église, dont le président serait désigné par l'Église. Il faut bien que le président soit désigné par quelqu'un et qui aurait un peu la mission de faire la lumière sur le passé, c'est-à-dire sur la quantité de crimes qu'il y a pu y avoir dans le passé après 1945. Sur le contexte qui a fait que ces affaires ont été étouffées, ne sont pas venues au jour, et également sur des préconisations pour l'avenir. Et donc, cette commission, l'idée en a été lancée par le président de la conférence et reprise par un certain nombre d'évêques. Nous en discuterons certainement à Lourdes au cours de cette assemblée.
Vous soulignez la différence, j'allais dire, de prise de conscience entre les évêques. Il n'y a pas une homogénéité entre les évêques sur cette question.
Il y a une unanimité des évêques sur le fait que, comme je l'ai déjà dit, rien ne sera plus comme avant et rien ne peut plus être comme avant. Il y a une unanimité pour écouter, accompagner les victimes et pour être extrêmement clair vis-à-vis des auteurs et en même temps avec la justice. En revanche, un certain nombre d'évêques n'ont pas eu à traiter dans leur propre diocèse de cas d'abus sexuels. Et donc forcément, ils ont une sensibilité qui est divers que celles qui ont eu dans leur diocèse plusieurs cas. Nous avons tout un travail de pédagogie à faire pour que les uns et les autres arrivent au même point. Et la possibilité pour tous les évêques d'entendre des victimes sera essentielle pour ça. Parce que certains n'ont pas eu à en entendre parce qu'aucune ne se sont signalées, ou parce que certaines, et c'est bien légitime, ont désiré parler plutôt à la cellule d'écoute et d'accompagnement qu'à l'évêque.
Deux jeunes prêtres se sont donné la mort, moins de 40 ans, en un mois. Est-ce que vous estimez que ce sont des victimes collatérales de la crise de la pédophilie ?
Aujourd'hui, nous vivons dans un moment qui est un moment extrêmement difficile, qui est un moment aussi qui est fait d'un soupçon généralisé et d'un regard porté sur les prêtres qui est un regard difficile. Moi-même à Paris, je suis frappé quelquefois dans la rue d'un regard très dur qui est porté sur les prêtres. Et je me permets une petite anecdote. Un évêque est descendu du train il y a quelques jours à Paris. Quelqu'un l'a abordé et lui a dit « Est-ce que vous êtes prêtre ?» Il a répondu « Oui, je suis prêtre. » Et la personne lui a dit « Nous vous éliminerons jusqu'au dernier. » C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une violence qu'on peut comprendre, mais que je ne peux pas accepter. Oui, dans la vie du quotidien, c'est compliqué pour des prêtres. Moi, je suis témoin de confrères qui, dans le métro, se font traiter de pédophiles. J'ai discuté avec certains qui m'ont dit « Moi, maintenant, je vais retirer mon col romain parce que je ne veux pas être attaqué. » Et voilà, donc il y a une forme de violence qui s'exerce aujourd'hui vis-à-vis de prêtres qui est honnêtement difficile pour un certain nombre.
Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France. Les évangéliques, leur progression, le poids de leur vote au Brésil, nous en parlions au début de l'émission avec le second tour des élections présidentielles. Eh bien, en Éthiopie, pays de la Corne de l'Afrique, où le christianisme et l'islam sont présents depuis la naissance des deux religions, le phénomène de cette montée des protestants évangéliques existe bien. C'est le reportage de Vincent Dublanche, correspondant de RFI à Addis Abeba.
Un dimanche matin à Addis Abeba, dans une immense salle aux allures de hangar, les fidèles de l'église pentecôtiste Mulwengel ont pris place sur les chaises en plastique. Dans la capitale, le mouvement Mulwengel, Full Gospel, revendique 70 communautés comme celle-ci. Ici, ils sont plus de 1500 à venir chaque semaine, explique le pasteur Moa. Parmi eux, une petite dizaine de convertis.
As they come in front, they repent.
Ils se mettent en face du pasteur et ils se repentent de leurs péchés. Ils avouent être des pécheurs et se repentent devant Jésus.
And they repent for their sin.
Accepter Jésus comme son sauveur personnel, voilà la phrase que les nouveaux arrivants doivent prononcer, même lorsqu'ils sont déjà chrétiens, dans un pays où 40 à 50 millions de personnes suivent le rite Tewahedo, proche des Coptes d'Égypte.
Quel que soit leur passé religieux, quand ils viennent nous voir, nous leur réapprenons la doctrine de Dieu, des Écritures, de l'Église, du salut de la fin des temps. Après avoir fini cela, ils sont baptisés.
Le pasteur débute son prêche. Tout est en amharique, la langue de l'administration, maternelle pour environ un tiers de la population du pays. Après 50 minutes, le public se disperse. Jonas a grandi dans la tradition orthodoxe, mais il a changé d'itinéraire religieux il y a 13 ans.
Je me suis senti pécheur dans mon fort intérieur. J'ai lu le livre Jésus-Christ est notre Sauveur. Et comme j'étais un pécheur, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ à ce moment.
Dans son quartier de l'Est d'Addis Abeba, Daniel n'a pas d'église Mulwengel. Alors, le théologien tente de lancer le mouvement.
J'ai préparé le café et un film à propos de Jésus. J'ai appelé des jeunes, des voisins, pour partager la cérémonie du café, et puis je leur ai demandé de regarder ce film, Jésus de Nazareth. Et certains ont été touchés par ce film, et finalement je prie en espérant qu'ils répondront, qu'ils viendront un jour me voir pour me dire « Daniel, on a décidé de suivre Jésus ». Ça, c'est la première manière de faire.
La seconde façon est de sortir, aller à la rencontre des autres.
Our local church is 1,000 members. Every year, every month, we go out.
Dans notre église locale, nous avons 1000 membres. Chaque année, chaque mois, nous allons dehors, dans la rue, de porte en porte, nous allons répandre la bonne nouvelle du gospel. Nous défions les gens, nous défions les fidèles orthodoxes. On leur dit qu'ils ne sont pas sur de bonnes fondations. Nous ne les critiquons pas frontalement, mais nous les défions de lire seuls les Écritures.
Chez les orthodoxes, certaines parties de l'office se disent en gaze, l'ancienne langue de l'Abyssinie devenue langue liturgique, un peu comme le latin pour le catholicisme traditionnaliste. Au contraire, très vite, les évangéliques ont misé sur les langues locales. Il y en a des dizaines en Éthiopie, dont la plus importante, l'Afan Oromo, parlée par 30 à 40 millions de personnes.
Quand les Allemands sont venus dans la région du Wolega, leur langue de travail était l'Afan Oromo. Ils ont promu le langage Oromo, la langue du peuple, et traduit la Bible, et ça a rendu les communications plus simples pour les gens. Ils utilisaient les chansons Oromo, différentes des orthodoxes.
Désormais, l'outil de conversion, c'est la télévision. Il y a une vingtaine de chaînes évangéliques éthiopiennes dont les panneaux publicitaires s'affichent dans la capitale. El Shaddai TV est abrité dans une grande maison avec jardin du centre-ville d'Addis Abeba.
El Shaddai est un mot hébreu.
El Shaddai veut dire le Tout-Puissant en hébreu, explique le pasteur Abera Apte. Dans le chapitre 17 de la Genèse, Dieu dit « Je suis Tout-Puissant, marche devant moi ». Le pasteur Abera a fondé cette télévision avec sa femme à Londres après, dit-il, une révélation divine. Orthodoxes à l'origine, ils se sont convertis au contact des autres immigrés éthiopiens à la fin des années 1980 dans la capitale britannique. Aujourd'hui, El Shaddai fonctionne 24 heures sur 24 et propose prières, cours sur la Bible pour tous âges et émissions de débats théologiques ou de société, et tout ça en 7 langues, dont plusieurs éthiopiennes. Chaque pasteur a sa demi-heure d'antenne qu'il paye. À cet instant, par exemple, c'est le pasteur Kasaun Lemma.
Kasaun is he has a airtime with us. He ran a church called I'm sorry, I forgot the name of his church.
Too many names. Il y a 20 églises éthiopiennes indépendantes rien qu'à Londres.
The last 10 years we saw big growth.
Ces 10 dernières années, nous avons observé une forte croissance, notamment parmi ces jeunes pasteurs qui créent leur propre église. Certains le font très bien, parce que les vieilles dénominations protestantes deviennent parfois des institutions, mais sans le gospel. La chrétienté devrait être concentrée sur la Bible. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux ou des politiciens. Jésus a dit « va et prêche » et ça devrait être notre credo, notre objectif.
That should be our motto, our focus.
Aujourd'hui, affirme le pasteur Abera Apte, même des moines orthodoxes regardent sa télévision. La plupart des convertis en Éthiopie sont chrétiens du rite Tewahedo, orthodoxe, mais il y a aussi des musulmans, notamment dans l'ouest et le sud-ouest éthiopien. Dans ce cas, les évangélisateurs protestants utilisent des convertis venus de l'islam pour toucher leurs anciens coreligionnaires. Et cela peut conduire à des tensions, car l'islam aussi est conquérant dans le pays de la Corne de l'Afrique, à tel point qu'il pourrait bientôt talonner la chrétienté orthodoxe traditionnelle des Hauts Plateaux, qui se trouve comme prise en étau.
Reportage signé Vincent Dublanche, correspondant de RFI à Addis Abeba.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Direction à présent l'Irak pour un sujet lourd et douloureux, celui des disparus de Daesh. Si la guerre a officiellement pris fin il y a un an pour les chrétiens et surtout les yézidis kidnappés et qui ne sont pas revenus, le calvaire continue pour celles et ceux qui sont encore en vie et pour leurs familles. Sur les traces des disparus de Daesh, c'est le reportage de Laurence Desjoyaux, grand reporter à l'hebdomadaire La Vie, qui a été publié en version papier et que l'on peut retrouver sur le site de La Vie. Reportage illustré avec les puissants dessins de Christophe Merlin. Laurence Desjoyaux, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est le calvaire raconté par Nadia Mourad, le jeune prix Nobel de la paix, qui vous a inspiré cette enquête?
Alors oui, effectivement, moi je suivais la situation irakienne par de nombreux reportages et j'avais vu la prise de la région de Sinjar, le kidnapping des yézidis. Et donc, rapidement après le kidnapping, il y a des premières femmes yézidis qui ont réussi à sortir des griffes de Daesh. Et Nadia Mourad est l'une des premières à avoir témoigné témoigner de ce qu'elle vivait. Et en fait, son témoignage a été petit à petit repris. Et par son témoignage et d'autres, on a commencé à comprendre que non seulement Daesh avait kidnappé un groupe énorme de femmes et d'hommes yézidis, et aussi quelques chrétiens, mais dans une proportion beaucoup moindre, mais qu'en fait, il y avait derrière une véritable stratégie de réduction en esclavage, esclavage sexuel, esclavage domestique, et pour les enfants, un lavage de cerveau, l'endoctrinement, l'entraînement comme enfant soldat. Donc c'est ce témoignage de Nadia Mourad qui a un peu auguré et qui a un peu commencé une série de témoignages qui a fait comprendre peu à peu qu'est-ce que faisait Daesh avec ses kidnappés, avec ses disparus en fait.
Alors cette enquête, vous l'avez réalisée cet été,
oui,
un été particulièrement chaud, et en fait c'est exactement, on va dire, 4 ans après cette avancée de Daesh, oui, notamment dans la plaine de Ninive et dans le Sinjar.
Oui, en fait, donc moi je suis allée en Irak cet été, en août, et c'est 4 ans jour pour jour après l'arrivée de Daesh dans la région de Sinjar. Alors en fait, Daesh était déjà en Irak puisque Daesh était venu de Syrie jusqu'à la région de Mossoul et avait pris la ville de Mossoul le 10 juin. Mais en fait, tout début août, entre le 2 et le 3 août, les djihadistes de Daesh ont complètement pris la région de Sinjar. Donc Sinjar, c'est une région où il y a la grosse ville de Sinjar, il y a un chapelet de petits villages, dont le village de Nadia Mourad qui s'appelle Kocho, et puis il y a le mont Sinjar, voilà. Donc les villages ont été pris, les gens ont fui, beaucoup ont fui vers le mont Sinjar, où ils se sont réfugiés, beaucoup ont été tués sur place, il y a eu des milliers d'hommes, notamment, qui ont été tués tout de suite. Des meurtres de masse, on a retrouvé des fosses communes, et il y a des femmes, des hommes et des enfants qui ont été kidnappés par familles entières, qui ont été emmenées.
Alors les yézidis, il faut le rappeler, sont des mécréants pour Daesh.
Voilà, en fait, les yézidis pour Daesh, ce sont c'est l'équivalent d'animaux en fait. C'est pareil en fait parce que ils ont une religion qui préexiste à l'islam, mais qui n'est pas une religion du livre. Et en plus, ils ont été caricaturés faussement comme des adorateurs de Satan, parce que ils ont une religion d'initié, donc on peut pas vraiment savoir quel est le contenu. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est que c'est une religion manichéenne. On peut dire qu'ils adorent Dieu et qu'ils respectent le diable. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, ils ont été caricaturés comme des adorateurs du diable. Et alors ça, vraiment, ça a fait d'eux vraiment des mécréants persécutés. Et c'est pas du tout la première fois dans leur histoire qu'ils sont persécutés, puisque eux-mêmes, ils disent que ils ont été victimes de plus de 70 génocides. Donc c'est vraiment un peuple qui a une longue histoire de persécution, un peuple aussi qui est un peuple phénix, qui revit tout le temps en fait. Mais là, l'ampleur du kidnapping, du déplacement, toute une région où, qui était vraiment une région yézidi, fait que c'est aujourd'hui une communauté qui est très marquée.
Vous allez nous parler effectivement de ces femmes enlevées qui vont passer d'une ville à une autre, hein, des noms qui résonnent du coup totalement différemment dans nos têtes, parce que là, derrière ces noms, Raqqa notamment, on peut mettre des visages, notamment celui de Hiram, c'est cela ?
Voilà, donc Hiram, c'est une jeune femme qui est aujourd'hui une jeune mère. Je l'ai rencontrée cet été, elle avait un tout jeune enfant, qui n'est pas un enfant qu'elle a eu avec Daesh, mais depuis son retour de captivité, elle s'est mariée et elle avait un tout jeune nourrisson. Donc je l'ai rencontrée dans un tout petit village du nord de la plaine de Ninive, où elle s'est réfugiée avec sa famille. Alors, c'est ce que j'explique dans l'article, c'est un village comme n'importe quel village, avec son troupeau de moutons, c'est magnifique, au coucher du soleil, collé contre la montagne, etc. On a vraiment l'impression qu'il s'est rien passé, en fait, de toutes ces années de Daesh. Et puis, en fait, quand on ouvre les portes des maisons, toutes les familles ont des histoires horribles. Il y a des morts, il y a des gens qui ont été captifs de Daesh qui sont revenus, et puis il y a des disparus, évidemment. Donc, Hiram, elle a été capturée par Daesh dans un petit village qui s'appelle Ranassor, donc capturée avec toute sa famille. Et elle a réussi à s'échapper, mais elle a pas de nouvelles de son père et de ses cousins. Voilà, dont elle a été séparée au bout de quelques mois de captivité. Et donc elle, en fait, elle est vraiment, elle a une histoire qui est, c'est horrible à dire, mais elle a une histoire qui est commune parmi la communauté yézidi. Et donc elle, je raconte son histoire. Et surtout, ce que je voulais savoir, en fait, c'est l'histoire de l'esclavage sexuel. Maintenant, on la connaît. Voilà, des Nadia Mourad, il y en a beaucoup qui ont témoigné de l'horreur qu'elles ont vécue. Moi, ce que je cherchais à savoir, c'est comment on s'en sort, en fait, de Daesh, comment on s'échappe. Et puis surtout, où sont ces Nadia Mourad qui sont encore aux mains de Daesh, en fait. À travers son histoire à elle, ben voilà, elle explique où est-ce qu'elle a été emmenée une fois qu'elle a été prise. Elle est allée à Mossoul. Puis ensuite, avec toute la famille, ils ont été regroupés à Tel Afar, qui est une ville à côté de Mossoul, où en fait, qui est devenue une ville de prisonniers yézidis. Ensuite, il y a les séparation des hommes, des femmes. On ne sait pas ce que sont devenus les hommes, mais voilà, j'ai pas évoqué cette question frontalement avec elle parce qu'elle est trop douloureuse. Mais on pense que les hommes sont morts. Et ensuite, elle, la vente,
400 dollars.
Araka.
Combien voilà, 500 dollars, c'est ça?
Non, alors elle disait pas le prix, donc c'est une chrétienne qui disait qu'elle avait été revendue 1 500 dollars. Elle, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, la vente, la revente, et puis devenir l'esclave d'un djihadiste à Raqqa. Elle raconte ça.
Et ce sont des peshmerga qui vont la sauver.
Voilà. Alors
en fait,
elle va passer par un réseau informel. Il y a plusieurs réseaux de passeurs. Donc il y a un réseau un peu officiel. Le Kurdistan a un bureau discret, mais un bureau quand même, qui s'occupe de la libération d'otages. Donc une équipe qui au début, par exemple, par des intermédiaires, a racheté des femmes sur des marchés ouverts. Maintenant, il n'y a plus de marché ouvert parce que Daesh n'a plus d'emprise territoriale à Mossoul ou à Raqqa.
C'est Daesh WhatsApp,
n'a plus de...
maintenant.
Voilà, ça se passe sur WhatsApp, dans des groupes fermés. Donc, il y a ce réseau-là de passeurs officiels qui rachètent. Et puis, il y a des réseaux officieux, quoi, des gens qui sont devenus passeurs. Et donc, je raconte notamment l'histoire de Abdallah. Donc, Abdallah, c'est le passeur qui a libéré Hiram. Abdallah, c'est quelqu'un qui s'est créé, en fait, une page Facebook où il s'est fait passer pour un djihadiste, enfin, pour un sympathisant djihadiste. Donc, par là, il s'est fait des amis, etc. Et avec cette façade, en fait, il a commencé à trouver les moyens de faire sortir des femmes yézidis. Et donc, c'est devenu un passeur assez connu par ses familles qui cherchaient leurs proches. Et donc, c'est lui qui a libéré Hiram. Donc, elle a réussi à avoir un téléphone par la famille musulmane, les voisins à Raqqa, qui lui ont donné un téléphone. Elle a appelé ce passeur, qui lui a expliqué, voilà, il y allait y avoir toute une chaîne de gens qui allaient la prendre avec eux, un par un mot de passe, et voilà. Et donc,
et ça a raté une première fois.
Voilà,
ça a raté.
Il y a une première évasion pendant que le djihadiste avec lequel elle est à la guerre. Mais cette évasion est un échec, et un échec à parce qu'elle va être reprise à un checkpoint. Elle va passer 24 heures dans une sorte de prison. Et bon, c'est les 24 heures les pires de sa vie, sachant qu'on parle d'une femme qui est déjà esclave sexuelle. Donc voilà, moi, je j'aime pas entendre les détails, et je pense que personne n'aime les entendre, mais c'est 24 heures atroces. Ensuite, par le même procédé, elle retente une deuxième fois, mais il faut que sa famille la convainque de retenter sa chance parce qu'elle veut plus, en fait. Tellement c'était horrible, elle veut plus. Mais la deuxième tentative sera la bonne. Et en fait, de personne en personne, elle se retrouve à Kobané, donc qui a été libérée par les Kurdes du PKK. Et donc de là, elle retournera en Irak. Mais c'est sa trajectoire d'évasion.
Écoutez Religion du Monde, notre invitée est Laurence Desjoyeaux pour son enquête sur les traces des disparus de Daesh. Alors il y a aussi, Laurence Desjoyaux, il y a aussi Mariam, la chrétienne, qui elle va devoir subir un apprentissage forcé du Coran à Mossoul.
Voilà, alors en fait, à côté de ces yézidis dont on a beaucoup parlé et qui ont été enlevés vraiment en masse, on parle aujourd'hui de autour de 3000 personnes dont on n'a pas de nouvelles, donc 3000 disparus. Il y a aussi des chrétiens qui ont été enlevés. Ils ont été un peu enlevés par accident, enfin c'est terrible à dire, parce que Daesh n'avait pas pour visée de les enlever, parce que les chrétiens, c'est des gens qui sont d'une religion du livre, on peut pas les enlever comme ça dans la tête de Daesh, voilà. Et puis surtout, les chrétiens, leur plaine de Ninive, la région où ils sont nombreux, a été prise par Daesh juste après la région de Sinjar. Donc on peut dire que les chrétiens, ils étaient prévenus quand même de ce qui allait se passer. Donc ils sont tous partis. Daesh a pris des villages vides et sont restés dans ces villages, ben voilà, des gens qui n'avaient pas réussi à partir, qui n'avaient pas entendu, qui étaient trop vieux, trop ceci, trop cela. Et donc au final, aujourd'hui, il y a 58 disparus chrétiens dont on n'a pas de nouvelles. Mais pour le coup, on n'a vraiment pas de nouvelles. Donc on ne sait pas s'ils sont morts, etc. Mais il y a quelques femmes et quelques enfants qui sont revenus de Daesh, dont Mariam, que j'ai rencontrée donc à Karakoche, qui est la grande ville chrétienne de la plaine de Ninive. Et Mariam, elle raconte qu'elle a été servante. Elle reste évasive sur les termes de sa captivité. Elle dit qu'elle a été servante. Et ce qu'elle raconte, en fait, c'est vraiment c'est le lavage de cerveau. Puisque elle était... dans la ville de Tel Afar, dans une bulle. Elle dit, moi, je savais vraiment pas ce qui se passait à l'extérieur. Tout ce que je voyais à la télé, c'était des chaînes islamiques qui passaient en boucle. Et ma seule sortie, c'était la sortie à la mosquée pour des cours d'apprentissage du Coran. Donc, en fait, Elle raconte à quel point on peut être perdu aussi quand on est captif et comme on est vraiment déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Et elle a compris progressivement qu'il se passait quelque chose, que peut-être il y avait des combats, etc., à l'agitation qu'il y avait autour. Mais en fait, elle savait pas si sa famille, où est-ce qu'elle était, comment on allait la chercher. Et elle a cette phrase terrible, elle dit, bah voilà, je regardais tout le temps par la fenêtre et tout le temps je m'imaginais qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui apparaissait et qui venait me chercher.
Voilà. Alors, il y a, Laurence Desjoyeaux aussi, le syndrome, j'allais dire, du kidnapping, qui finalement finit par adhérer à l'endoctrinement qu'il a subi.
Voilà, alors en fait là je reprends en fait le travail du père Patrick Desbois, qui est un prêtre catholique qui a fondé une association qui s'appelle Yad in Unum. Au début, cette association a enquêté sur ce qu'on appelle la Shoah par balle.
Oui, en Ukraine.
En Ukraine, oui. Voilà. Et donc, il a vu en direct ce qui arrivait aux Yézidis et s'est dit, mais voilà, c'est un génocide en cours, c'est le terme qu'il emploie, donc il faut aussi que j'aille investiguer. Et donc, lui, il se rend régulièrement en Irak et il a interviewé à ce jour 255 femmes et enfants qui étaient captifs de Daesh et qui reviennent. C'est une des personnes qui connaît le mieux la situation, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, de Daesh. Et lui, il met le doigt un peu sur les questions qui fâchent, en fait, dans ces enlèvements. Il dit, mais en fait, plus le temps passe, plus les femmes, soit de manière feinte, soit de manière réelle, elles subissent ce lavage de cerveau et cette islamisation forcée. Il note un tournant dans ses interrogations d'une femme qui épouse un juge islamique et qui voit au moins une fois par jour des exécutions, des punitions, etc. Et elle dit, à un moment, ça ne me faisait plus rien, j'étais Daesh. Voilà. Donc c'est ce qu'elle dit au père Desbois qui l'interroge après. Donc ça montre à quel point, en fait, il faut aussi savoir écouter les témoignages de femmes ou d'enfants de retour dans leur complexité pour voir que, voilà, au bout de 3 ans, 4 ans, où on vit dans un environnement hyper violent, où cette violence est scénarisée sur des grands écrans qui se baladent dans la ville, où il y a des meurtres en public, et c'est difficile de résister. Voilà.
Et puis, il ne faut pas oublier que ces femmes, souvent, ont eu des enfants. Ce sont les enfants de Daesh.
Voilà, c'est la fin de son enquête, et c'est un point que moi-même, je n'avais pas du tout perçu au début, et que le père Desbois a mis beaucoup de temps à comprendre, parce que c'est vraiment le tabou ultime. En fait, ces femmes qui ont été capturées par Daesh, qui sont devenues des esclaves sexuelles. Alors, il y a différents degrés d'esclavage. Il y a vraiment des femmes qui sont esclaves, qui sont passées d'homme en homme, qui ont été revendues 25-35 fois. Et puis, il y a des femmes qui ont été mariées avec un djihadiste, un préfet, etc., qui sont devenues une femme de Daesh.
Elles ont un statut.
Elles ont un rôle social, elles les accompagnent partout, elles font partie de l'organisation. Et en fait, ces femmes, parfois, ont eu des enfants avec leur ravisseur. Le problème, c'est que quand elles se font arrêter, parce qu'il y a beaucoup de femmes yézidis qui s'en sont sorties parce que leurs djihadistes, quand il y a eu les combats en Syrie, ont essayé de fuir, se sont fait arrêter soit par l'armée syrienne, soit par les Kurdes du YPG. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'elles ne sont pas des djihadistes, qu'elles sont des yézidis, et donc on les laisse repartir. Sauf qu'en fait, elles ne repartent jamais avec leurs enfants. Donc le père Desbois y voit arriver des femmes qui viennent de remettre leur enfant, en fait, dans des espèces de nurseries. Donc pour ces femmes, c'est la double peine. Et éventuellement, le père Desbois émet l'hypothèse que c'est ces enfants qui font que certaines femmes ne veulent pas revenir.
Je vous remercie, Laurence Desjoyeaux, donc pour ce témoignage. Je rappelle donc le titre de votre enquête que l'on peut lire sur lavie.fr, sur les traces des disparus de Daesh. Je vous remercie.
Merci.
Referme notre émission en douceur, j'allais dire, avec le deuxième salon Jeunesse et Spiritualité qui se tiendra, alors on prend un petit peu d'avance, le dimanche 18 novembre au Forum 104 à Paris dans le 6e arrondissement. Comment parler de la spiritualité et de la religion aux enfants, de la vie intérieure aux adolescents, comment apprendre le dialogue avec les autres religions et aussi avec les non-croyants, c'est le fil conducteur donc de ce deuxième salon. Pour en parler, la vice-présidente, l'écrivain et essayiste Karima Berger. Bonjour.
Bonjour.
Karima Berger, auteure de très beaux livres, je le rappelle, sur l'islam et la spiritualité. Alors, ce salon s'adresse à des jeunes de quel âge ?
Des tout petits, disons, à partir de 5 ans jusqu'aux adolescents. Des enfants qui sont à la fois en éveil spirituel,
mais c'est aussi des enfants qui sont en questionnement, en interrogation sur qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que Dieu. Et c'est un salon qu'on a voulu développer sur le thème de la transmission, parce qu'aujourd'hui ça nous paraît tout à fait essentiel.
Il n'y a pas de salon, c'est le premier sur ce thème, un salon de livres pour enfants, mais de spiritualité, de
tout
religion.
Tout à fait. Il y a le salon du livre de Montreuil, hein, pour la jeunesse bien sûr, mais il n'y a pas un salon qui est dédié aux ouvrages, à la littérature, aux romans, aux BD, aux DVD, enfin aux films, qui parle de la spiritualité, de la religion de l'autre, des religions monothéistes, des différents personnages de la Bible, pourquoi on les retrouve dans les trois religions. Et ce qu'on a voulu justement, c'est montrer les points communs, montrer ce qui unit ces religions, enfin les points forts qui rapprochent plutôt que les séparations, bien évidemment. Et ce n'est pas un salon où l'on va trouver des livres, je dirais, de type catéchèse. C'est-à-dire, on va pas trouver des livres sur comment faire le ramadan, comment faire la prière, comment faire le shabbat. Ce qu'on va chercher, nous, c'est le cœur ou le noyau de la religion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun ?
La quête spirituelle.
La quête spirituelle, voilà. Après, c'est le noyau. Enfin, je dis toujours, il y a l'écorce, hein, qui sont les rites et qui sont les différentes façons d'aimer Dieu et de le célébrer. Mais il y a ce noyau-là qui est commun à tous. Et c'est ce que l'on veut vraiment souligner.
Est-ce que cela veut dire que la BD, la bande dessinée, est prédominante ?
Elle a de plus en plus de place, hein, puisque le premier salon que l'on a fait donc en novembre 2016, il y avait quelques bandes dessinées, mais là, on a été rechercher les plus belles bandes dessinées. Notamment, il y a par exemple Robin qui fait de très très belles choses. Et je dois dire que les catholiques ou les chrétiens, de façon générale, ont une avance en la matière. Et il y a de très très beaux livres vraiment sur le religieux, sur le spirituel, sur les religions du judaïsme et de l'islam. On en est finalement un peu au balbutiement. On a peu de livres qui ont cette maturité qu'ont les livres du christianisme pour la jeunesse.
Des religieux vont venir à ce salon, ils y participent.
Oui, ils y participent. Alors on a par exemple cette table ronde sur la transmission où on a le rabbin Pauline Beb. Donc on était très contents que ce soit une femme et une rabbin qui viennent parler du judaïsme, parler de la transmission, parce qu'elle fait vraiment un beau travail dans sa synagogue auprès des enfants. Il va y avoir Alain Benchir qui est le théologien, il va y avoir Agnès Charlemagne qui travaille beaucoup avec des enfants dans les quartiers à Marseille et qui fait de la transmission aussi. Il va y avoir bien sûr Coexister, hein, qui font un travail aussi dans les lycées de rapprochement entre les religions. Les scouts seront présents, les scouts musulmans, les scouts chrétiens, les scouts juifs. Des ateliers aussi, à la fois pour les tout-petits, pour fabriquer des lumières, parce qu'on va être à un temps assez magique où il va y avoir à la fois les fêtes de Hanouka, de l'Avent et du Mouloud.
Donc c'est la lumière.
Voilà, c'est la lumière. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des ateliers aussi sur des adolescents qui se posent des questions. J'y crois pas. Qu'est-ce que Dieu ? À quoi ça sert ? Pourquoi Dieu est méchant ? Pourquoi on n'a pas le même ? Enfin voilà.
Donc, qui vient ? Sont les parents ou les...
Alors il y a les parents qui viennent avec les enfants. Les enfants sont passionnés par tout ce qui est images, livres, parce qu'on a vraiment choisi de très très beaux livres. Mais les parents sont aussi intéressés par se refaire une religion, si je puis dire, se refaire une éducation religieuse qu'ils n'ont presque plus. Et ils ne savent plus comment transmettre, ils ne savent plus, en tout cas ceux qui ne sont pas pratiquants, ils n'ont plus vraiment de cette culture religieuse.
Donc je rappelle la date, dimanche 18 novembre au Forum 104 dans le 6e arrondissement à Paris.
Rue de Vaugirard, au 104 rue de Vaugirard, de 11h à 18h.
Je vous remercie Karima Berger, merci.
Merci beaucoup.
La fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Pauline Leduc vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.